Radio Prague, les informations.
Bonjour, une commission sénatoriale examine les rapports d'audit de la Commission européenne portant sur le potentiel conflit d'intérêts du Premier ministre tchèque. La Société nationale Les Forêts tchèques affiche des chiffres en forte baisse en raison de la crise du scolyte. Ouverture ce jeudi soir à l'Etomeche du Festival international de musique et dédié au compositeur Bedřich Smetana. Le Sénat a constitué une commission chargée d'évaluer les rapports d'audit préliminaires de la Commission européenne portant sur les soupçons de conflits d'intérêts dont font l'objet le Premier ministre Andrej Babiš et le ministre social-démocrate de l'Agriculture Miroslav Toman. Composé de 12 membres qui représentent tous les 6 clubs qui existent au sein du Sénat, la nouvelle commission devrait être présidée par Zdeněk Nitra du Parti civique-démocrate. Son objectif est de rassembler toutes les informations relatives au rapport d'audit de Bruxelles. La compagnie nationale des forêts de République tchèque, Lesy České republiky, qui gère environ la moitié des forêts du pays, a annoncé jeudi une baisse importante de son bénéfice net. Celui-ci a chuté d'environ 17 millions d'euros en 2017 à moins de 3 millions d'euros l'année dernière. Le résultat s'explique par une baisse considérable du prix du bois suite à l'épidémie du scolyte, insecte ravageur qui contamine les forêts. Pourtant, le volume du bois exploité a augmenté en 2018, a annoncé la porte-parole des forêts de République tchèque. Un concours de composition pour orgue a été lancé par la maison d'édition de la radio tchèque et la fondation pour l'installation du nouvel orgue à la cathédrale Saint-Guy au château de Prague. Les compositeurs sont appelés à créer une œuvre spécialement pour ce nouvel orgue qui devrait être installé dans la cathédrale pragoise au début de 2020. La fabrication de l'instrument a été partiellement financée par une collecte publique. Le concours sera clos le 6 janvier prochain. Les 3 meilleures compositions d'une durée de 10 minutes chacune seront publiées sur le site de la radio tchèque et ce sont ensuite les auditeurs qui sélectionneront le gagnant. Le nom de celui-ci sera annoncé en septembre 2020. Toujours dans le domaine de la musique, c'est avec un concert de la Philharmonie tchèque dirigé par son chef invité principal Jakub Hruša que s'ouvre ce jeudi soir la 61e édition du Festival international de musique d'opéra et classique Smetanova Litomyšl. Situé en Bohême de l'Est, Litomyšl est la ville originaire du compositeur Bedřich Smetana. Une quarantaine de concerts et de spectacles sont au programme jusqu'au 7 juillet prochain et un accent particulier est mis sur l'opéra. Le festival proposera entre autres une nouvelle représentation de l'opéra Dalibor de Bedřich Smetana par le Théâtre National de Prague ou encore l'opéra rock Jesus Christ Superstar interprété par le Théâtre de Moravie-Silésie d'Ostrava. Parmi les grands invités du festival figurent la mezzo-soprano Magdalena Kožená ou encore l'orchestre Tchaïkovski de Moscou. L'équipe de République tchèque de handball a battu la Finlande chez elle 26 à 24 mercredi soir à Vantaa pour son 5e et avant-dernier match de groupe comptant pour les éliminatoires du championnat d'Europe 2020. Cette victoire, la 4e, qualifie la représentation pour le tournoi final et ce avant le dernier match de groupe qui la verra accueillir la Bosnie-Herzégovine dimanche à Ostrava en Moravie. Côté météo, le beau temps se maintiendra en République tchèque vendredi, jour de la fête des Rolands. Il fera toujours assez chaud, les températures seront comprises entre 28 et 32 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information. Alors que le 21 août prochain, 51 ans se seront écoulés depuis l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques, le projet de loi de la Douma en Russie qui établit que ces mêmes troupes ont agi contre un coup d'État dans le pays et prévoit de conférer aux soldats le statut d'anciens combattants suscite une vive polémique en République tchèque. Un programme de séjour en France à destination des lycéens tchèques vient de fêter son 10e anniversaire. Nous vous en dirons plus dans quelques instants avant de prendre la direction de la Šumava, ce beau massif montagneux du sud de la Bohême qu'a découvert pour vous Sarah Andrea dans notre rubrique touristique de la semaine. Bonne écoute de ce programme. « Dans 2 mois sera marqué le 51e anniversaire de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes de l'URSS et de plusieurs autres pays du pacte de Varsovie. Plus d'un demi-siècle après, l'écrasement du printemps de Prague reste un traumatisme et un sujet sensible dans les relations tchéco-russes. Alexis Rosenzweig.
En cette fin de printemps 2019, c'est une nouvelle initiative législative au Parlement russe qui suscite en effet de vives réactions à Prague. Des députés envisagent de faire adopter par la Douma une nouvelle loi selon laquelle les troupes soviétiques ayant participé à l'invasion de la Tchécoslovaquie en août 1968 avaient agi pour contrer, je cite, un coup d'État. Le projet prévoit également de donner aux soldats participants le statut d'anciens combattants. Yuri Sinelchikov est l'un des députés russes à l'origine de cette proposition de loi. Il est lui-même un ancien soldat qui a participé à l'opération Danube de 1968, une opération efficace et rondement menée selon lui, pas une occupation, on l'écoute. Nous nous préparions à un affrontement avec l'OTAN. On était armés jusqu'aux dents, chacun de nous avait une mitraillette avec 2 chargeurs et des grenades. Une initiative législative similaire avait échoué en 2016 à la Douma. Mais les parlementaires tchèques n'ont pas attendu le vote concernant la nouvelle version pour réagir. La Chambre des députés a officiellement protesté en indiquant qu'il s'agissait, je cite, d'une abjecte tentative de légitimation de l'occupation. Ce qui s'est passé en 1968 était une violation du droit international. Il s'agissait d'une occupation, explique Marianne Jurečka. Il est l'un des co-auteurs de la résolution adoptée par la Chambre basse. Même son de cloche du côté des sénateurs tchèques, qui eux considèrent que cette nouvelle loi serait une violation du traité tchéco-russe signé en 1993, un traité dans lequel il est bien question d'occupation. Pavel Fischer préside la commission sénatoriale pour les affaires étrangères. Il fait le lien entre cette dernière initiative à Moscou et la politique étrangère actuelle de la Russie. Non seulement la Russie occupe, mais elle s'efforce également de réécrire l'histoire et de faire en sorte de légitimer ses occupations passées, comme elle le fait dans le cas de la Tchécoslovaquie notamment. Le président de la République tchèque, Miloš Zeman, a lui aussi exprimé son désaccord par l'intermédiaire de son porte-parole. Le chef de l'État a convoqué à ce sujet l'ambassadeur russe ce jeudi après-midi. Preuve, s'il en faut, qu'il s'agit d'un sujet très sensible à Prague et à Bratislava aussi. Quelques jours avant sa prise de fonction officielle, la présidente élue de la Slovaquie, Zuzana Čaputová, a déclaré « Cette intention de légitimer de quelque manière que ce soit l'invasion des armées russes me semble tout à fait inacceptable ». Fin de citation. Il y a 3 ans, rappelons qu'un documentaire historique russe comparant l'invasion à une aide fraternelle avait également suscité de vives réactions chez les Tchèques et chez les Slovaques.
L'Institut français de Prague célèbre cette année le 10e anniversaire d'un an en France. Un an en France, c'est un programme qui permet à des lycéens tchèques d'étudier, je vous le donne dans le mille, en France, une année durant. Pour marquer le coup, une rencontre entre anciens et futurs participants au programme a été récemment organisée et c'est Colin Gruel qui était de la partie.
En l'espace de 10 ans, l'Institut français de Prague et ses partenaires ont permis à quelques 450 élèves tchèques en classe de première de se rendre dans des lycées de Nîmes et de Dijon notamment, des établissements qui ont tissé des partenariats avec la Tchéquie. Partie en France en 2009, Klára Cibulová, qui est aujourd'hui comédienne en France et en République tchèque, a été la première élève à participer au programme.
Le programme n'existait pas encore à cette époque-là. J'ai cherché un organisme avec lequel je pouvais partir en France. Et j'étais désespérée parce que je n'arrivais pas à trouver. Et j'étais même si désespérée, j'ai demandé à un vigile à la sortie de l'Institut français. Et il m'a filé un numéro sur un bout de papier. J'ai mis quelques jours avant de l'appeler parce que je me disais c'est quoi ce numéro. Finalement j'ai appelé et c'était Jiří Votava qui m'a demandé de lui envoyer mon CV. Et 2 semaines plus tard, il m'a invité chez lui dans son bureau et il m'a trouvé à un lycée exactement pour moi avec une option théâtre à Avignon, donc dans la ville quand même du théâtre. C'était magnifique, c'était vraiment un rêve. Et c'est comme ça qu'il a appelé les autres élèves et c'est devenu le programme Un en France. Et vraiment, je ne parlais pas la langue, je ne comprenais pas, mais j'avais ce désir de partir en France. Et ça, c'est quand même très rare parce que souvent dans les programmes, il faut déjà avoir un certain niveau, passer des concours. Et donc pour moi, c'était une expérience géniale et ça m'a complètement tout changé.
Passionnée de philosophie, Clara Tsiboulova a rapidement progressé malgré un niveau de français débutant.
Au bout de 2 mois, j'ai commencé à rêver en français et je me réveillais pendant la nuit pour descendre, pour regarder dans le dictionnaire c'est quoi le mot qui me manque dans mon rêve pour pouvoir continuer. C'était quand même extraordinaire.
Pour pouvoir continuer à rêver.
Oui, exactement. Oui. Donc, non, c'était dur, mais je regrette pas.
Venue de Paris spécialement pour le 10e anniversaire d'un an en France, Clara Tsiboulova entendait convaincre quelques jeunes tchèques de marcher dans ses pas, ou rassurer, à minima, les candidats à l'aventure, un peu inquiets par la perspective de passer un an loin de chez eux. Parmi ces lycéens téméraires, Sophie, qui partira à Dijon à la rentrée prochaine.
L'année prochaine, je serai en première, et alors je vais passer l'épreuve de bac de français. Alors c'est un challenge un peu pour moi. Et donc je pense que ça sera dur, mais il faut faire quoi. Pour l'instant, je sais que je serai à l'internat lundi jusqu'à vendredi, et après pendant le week-end, je serai dans une famille d'accueil, et voilà, ça va se passer comme ça. Et après pendant les vacances de 2 semaines, je serai ici en République tchèque. Bien sûr, je veux améliorer mon langue, et en plus j'aime bien cuisiner des choses françaises. Alors c'était aussi le but pour découvrir un peu plus la cuisine française, et aussi c'est la culture.
Également présent à la cérémonie, le directeur de l'Institut français de Prague, Luc Lévy, qui se félicite du succès du programme. Nous en avons profité pour lui demander s'il ne serait pas envisageable de lancer un programme dans le sens inverse pour permettre à de jeunes Français de découvrir la République tchèque pendant un an.
Alors je pense que ça pourrait être effectivement une excellente idée. Alors vous avez raison, il existe plusieurs dispositifs. Alors il y a ce programme Un an en France qui a été créé donc il y a 10 ans, mais il y a aussi, j'ai mentionné cet élément-là aussi, il y a ce que nous appelons les sections tchèques à Nîmes et à Dijon, dont on va célébrer le centenaire. Donc effectivement, il y a comme ça des dispositifs très, très pertinents, très efficaces, des échanges entre nos deux pays. Mais je crois effectivement que ça serait une excellente idée qu'il y ait aussi un programme de mobilité pour des jeunes Français de venir faire peut-être une part de leur scolarité en République tchèque. Mais l'initiative, bien sûr, reviendrait à la partie tchèque.
L'appel est donc lancé. En attendant, il reste à souhaiter bonne chance à la prochaine promotion du programme Un an en France.
Entre les lacs légendaires et les immenses épicéas, bienvenue dans le cœur vert de l'Europe. Notre destination d'aujourd'hui, c'est la Schumava, ce massif montagneux du sud de la Bohême, à la frontière entre l'Allemagne, un petit bout de l'Autriche et la République tchèque. Sarah Andrea y était pour vous.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc.
Nová Pécs est une bourgade à l'orée de la Šumava. Moins de 500 habitants en 2018, 7 quartiers et une toute petite gare ferroviaire à 2 pas d'une auberge-refuge. Bordée de hêtres et d'épicéas, Nová Pécs est à 1 heure de train de Český Krumlov, la ville natale du peintre expressionniste Egon Schiele. Le lac artificiel de Lipno, qui descend bien plus au sud, s'y étend le long de la voie ferrée. On aurait bien envie de se perdre parmi les longs roseaux et les barques écaillées, mais notre objectif, c'est la forêt. Un groupe de cyclistes nous indique l'entrée du sentier forestier, qui propose une randonnée de 2 heures environ, balisée en rouge. Nous n'avons pu en suivre les traces jusqu'au bout, bien que la route ne soit pas difficile à suivre. Accompagnée de Lucille Jean-Launay, étudiante française en histoire de l'art et langue germanique, nous pénétrons dans la partie sud du cœur vert de l'Europe.
Ça te fait penser à des endroits en France ? Ou que tu as déjà visité, même pas forcément en France ?
Ça n'a pas de pain comme ça. Genre, dans la côte sud de Bretagne, il y a des pins.
Proclamé parc national en 1991 et reconnu patrimoine de l'UNESCO, ce massif montagneux où la Vltava prend sa source héberge une biosphère encore vierge par endroits. Afin de la protéger au mieux, la forêt de la Šumava est divisée en 3 zones. La première, qui représente environ 13% de la forêt, est un espace étroitement protégé où il est interdit de circuler en dehors des sentiers déjà dégagés et l'intervention de l'homme y est réduite au strict minimum. C'est au cœur de cette zone que se cache Boubine, la plus ancienne forêt vierge tchèque. L'âge de ces conifères peut atteindre 400 ans. La zone 2, elle, regroupe 82% de la superficie du parc. C'est celle qui est réservée au tourisme, et l'on peut y circuler librement, à condition de respecter la réglementation environnementale. Enfin, la zone 3 est consacrée aux activités économiques, l'agriculture, l'exploitation forestière, les services.
Comme j'ai une sensibilité peut-être un peu artistique, ça me fait un peu penser à des peintures du début du XXe siècle, ou fin XIXe, sur des paysages slaves, et que Murat a repris dans des peintures un peu épiques, mettant en exergue une identité slave et en reprenant des paysages typiques de forêts, de lacs.
Lucille Jean-Launay n'est pas la seule à avoir senti le potentiel esthétique de la Shumava. C'est au cœur de la forêt de Bohême que le graveur Josef Vahal a trouvé l'inspiration qui lui permit, dans les années 30, de composer Shumava umirajitsi aromantitska, la Shumava mourante et romantique. Avec lyrisme et mystère, Vahal évoque une rivière Vidra aux effluves de jasmin, ou les eaux de Kremlna, parfumées comme le café. Et en parlant de mystère, la Shumava pourrait bien être cette forêt déserte où atterrit Yann Dittier après ses 14 ans et 9 mois de prison dans « Moi qui ai servi le roi d'Angleterre », le film de Jiří Menzel tiré d'un célèbre roman de Bohumil Hrabal. Outre l'imaginaire de ses auteurs, c'est aussi tout un florilège de contes et de personnages plus ou moins légendaires qui peuplent ce massif si prisé des touristes. Laissons la parole à notre collègue Yaroslava Gisubelova, qui a déjà raconté l'histoire de ce parc national sur Radio Prague en janvier 2017.
La Shumava attire les visiteurs par sa nature. La cible la plus fréquente des touristes sont les 5 lacs glaciaires, dont les plus connus sont Tcherné Jezero, le lac Noir et Tchertovo, le lac du Diable. D'autres témoins des glaciers d'autrefois, les tourbières, dont quelques-unes sont aujourd'hui accessibles par des sentiers. Une particularité naturelle et technique, ce sont des canons servant à transporter le bois. Le plus célèbre d'entre eux, le canal Schwarzenberg, a été remis en service il y a 5 ans après une longue réparation.
La légende dit que le lac Tchertovo Jezero doit son nom au diable, qui y aurait été noyé par une jeune fille plus maligne que lui. De désespoir, il aurait creusé ce vallon difficile d'accès, mais dont la vue magnifique vaut assurément le coup. On raconte qu'aujourd'hui encore, gnomes et autres créatures en sortent la nuit. Voulez-vous tenter l'aventure ? Dans ce cas, nous vous recommandons l'itinéraire qui passe par le lac Tcherné Jezero, dont les eaux noires ne manqueront pas de vous fasciner. Suivez le balisage jaune depuis Spiszczackie Sedlo, au nord de la Shumava, puis le balisage rouge depuis le lac Tcherné Jezero, et vous verrez peut-être la queue du diable s'agiter entre les pierres du Tchertovo Jezero. Pour une autre vue à couper le souffle, enfoncez-vous davantage dans le parc pour y découvrir le lac Prachilské Jezero depuis les hauteurs du belvédère Poledník. Enfin, les amateurs d'histoire ne seront pas déçus de visiter les châteaux alentour, comme le château de Kašperk, fondé par l'empereur Charles IV, et celui de Velhartice, construit par son grand compagnon de beuverie, Buchek de Velhartice. À pied ou en vélo, au nord ou au sud, le parc national de la Shumava ne manquera pas de vous charmer. Pour vous y rendre, le plus simple reste de prendre la voiture. Mais ceux qui préféreront le train régional ne seront pas déçus du voyage. Traverser les paysages de Bohême au rythme des voies ferrées et attendre l'arrivée du train dans un minuscule bistrot, quoi de plus pittoresque ?
Voilà, c'est sur cette jolie balade dans le massif de la Shumava en Bohême du Sud que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie. L'actualité tchèque, vous le savez, elle continue également sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'aller jeter un œil sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent et ahoy. Thank you.
Thank you. Thank you.